Dans Philippiens chapitre 1, et suivez s'il vous plaît dans vos Bibles pendant que je lis ces versets, depuis le verset 3 jusqu'au verset 8. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que... Et puis il continue, mais on va s'arrêter là. Bon, dans n'importe quelle lettre qu'on écrive, nous arrangeons nos mots dans des phrases et puis nos phrases dans des paragraphes. Puis le sens d'un mot est bien sûr mieux compris dans le contexte de la phrase où c'est trouvé. Le sens d'une phrase est mieux compris dans le contexte d'un paragraphe. Et quand vous écrivez une lettre et voulez aborder un nouveau sujet, vous commencez normalement avec un nouveau paragraphe, n'est-ce pas? Et ce que nous voyons, c'est que les versets 3 à 11 forment un seul paragraphe. Et vous rappelez peut-être que le sujet de ce paragraphe, c'est la prière. Hein, donc regardez le verset 12 dans vos Bibles, du chapitre 1, et vous verrez que Paul change de sujet pour parler de ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire ses circonstances. Mais le paragraphe qui commence au verset 3, après la salutation, et qui continue jusqu'au verset 11, pourrait être titré « La prière de Paul pour les Philippiens ». Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois. La prière de Paul pour les Philippiens. Puis on a vu que les versets 3 et 4 nous donnent son état d'esprit dans la prière, hein, qui était caractérisé par la gratitude, par la joie. Il était plein de joie, plein de gratitude quand il priait pour eux, quand il pensait à eux. Et puis les versets 5 à 8 nous donnent des raisons pour une telle prière. Pourquoi est-ce que ces prières sont remplies de joie? Pourquoi tant de gratitude? Pourquoi, Paul, est-ce que tu rends grâce à Dieu chaque fois que tu pries pour ces personnes-là? Eh bien, il nous explique. Regardez le verset 3. Encore, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de, ou en raison de. Hein, donc là, ce qui suit, ce n'est pas les choses pour lesquelles Paul prie, mais il fait sa demande avec joie en raison de ces choses. La phrase au sujet de, que nous voyons ici dans le verset 5, exprime la cause et pas le contenu de ses prières. En fait, on a dit que devant le verset 5 et devant le verset 6, on aurait pu mettre les mots « parce que » devant chaque verset, parce que chaque verset dévoile une cause, pour sa joie, pour sa gratitude. Et donc Paul va nous donner deux raisons pour sa prière pleine de reconnaissance, pleine de joie. La première raison pour la joie et la gratitude de Paul a à faire avec son rapport avec les Philippiens. Et puis la deuxième raison à faire avec le rapport de Dieu avec les Philippiens. Hein, donc la première chose, son rapport avec les Philippiens, il a dit que c'était en raison de leur communion dans l'Évangile. La dernière fois, nous avons passé presque tout le message à considérer cette communion qui était centrée sur l'Évangile, une communion dans l'Évangile, une communion qui était constante, hein, parce qu'il dit depuis le premier jour jusqu'à cette heure, et une communion qui était démontrée, évidente à ceux qui étaient autour. Et démontrée, nous avons vu, surtout à travers leur participation financière dans son travail. Et donc nous voyons que la première motivation pour une telle prière pleine de joie, pleine de reconnaissance, est leur communion. Mais dans le verset 6, nous voyons la seconde motivation, qui a à faire avec le rapport de Dieu avec les Philippiens. Et qu'est-ce que c'est? Regardez-le avec moi, regardez le verset 6. « Je suis persuadé que que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ou mieux, on pourrait le traduire « étant persuadé ». On s'exprime la cause, voyez ? On pourrait mettre même « parce que » devant ce verset, comme devant le verset 5. « Parce que je suis persuadé de ce fait. » Je suis persuadé de ce fait que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est à cause de ça que je prie avec joie pour vous les Philippiens. Je suis persuadé de quelque chose. Et donc la deuxième motivation, c'est en raison de sa confiance dans le perfectionnement, je prends ce mot directement du verset, le perfectionnement de l'œuvre de Dieu. Et je crois que ça résume vraiment ce verset 6. Parce que quand vous partagez avec Paul cette même confiance dans le perfectionnement de l'œuvre de Jésus-Christ, de l'œuvre de Dieu, dans les cœurs des croyants, je vous assure que vos prières pour ces personnes seront remplies de joie et de gratitude. Donc ce que je veux faire, c'est de regarder d'un peu plus près le verset 6, parce que ça nous parle d'une bonne œuvre. Vous voyez ces mots dans le verset ? Une bonne œuvre ? Je voudrais faire plusieurs remarques au sujet de cette œuvre. C'est quoi cette œuvre, cette bonne œuvre ? Et premièrement, je veux que nous considérions l'auteur de cette œuvre. L'auteur, celui qui a fait l'œuvre, ou qui fait l'œuvre. Vous notez en regardant ce verset qu'il y a deux pronoms dans ce verset. Vous les voyez ? Il y a un « celui » qui a référence à qui ? À Dieu. Et puis il y a un « vous » qui se réfère aux Philippiens que Paul a appelé « saints » dans le verset 1. Donc il y a deux pronoms, il y a deux sujets, deux personnages. Et puis si vous regardez, vous allez voir qu'il y a aussi deux verbes dans ce verset. Il y a le verbe « à commencer cette bonne œuvre », et puis il y a la perfection ou l'accomplissement de cette bonne œuvre, le fait qu'elle sera rendue parfaite. Il y a deux actions. Donc deux sujets, deux personnalités, deux actions, mais tandis qu'il y a deux groupes indiqués, Dieu et les saints de Philippe, et deux verbes, un commencement et un perfectionnement, il y a seulement un individu qui accomplit ces deux verbes. Vous voyez ? Et c'est qui le fait ? C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est l'auteur de cette œuvre, de son commencement comme de sa fin. Et cela me fait penser d'un verset en Hébreux chapitre 12 et verset 2 qui dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Il a ouvert le chemin à la foi et aussi il la porte à la perfection. Vous voyez, le commencement, la fin, c'est Dieu qui produit, qui œuvre en nous tous les deux. Le commencement comme la fin. Voilà pourquoi il pouvait avoir une telle confiance que cette œuvre allait être rendue parfaite, parce que c'était l'œuvre de Dieu, vous voyez ? C'était pas l'œuvre de l'homme. Parce que si c'est une œuvre de l'homme, commencée ou perfectionnée par un homme, on n'a pas raison d'avoir beaucoup de confiance. Il ne faut pas chercher loin pour trouver des œuvres inachevées. J'imagine que nous avons tous des œuvres, des projets qui sont inachevés, qui n'ont pas été terminés. On les a bien commencés, mais on ne les a jamais terminés. Je suis le seul ? J'imagine que non. Je m'appelle en janvier 2008, l'année passée, ma famille et moi, on a pu visiter le grand-oncle de Michael Kohl. Les Kohl sont la famille qui espère nous rejoindre bientôt aussi en France. Et c'est un célibataire, son grand-oncle, âgé de 90 ans, je crois. Dans les années 40, quand il était jeune, il s'est fiancé. Et en préparation pour son mariage, il a commencé à construire vraiment une belle petite maison. J'ai même des photos pour vous le montrer. La façade est très belle. Mais avant le mariage, bon, je ne sais pas quand ça s'est passé, mais juste avant le mariage, sa fiancée l'a quitté et s'est mariée avec son frère. Si vous pouvez imaginer ça. Donc ça doit faire des belles réunions de famille après ça. Et depuis ce temps, il habite dans la maison comme célibataire, mais il n'a rien fait de plus. Et quand je dis rien, je veux vraiment dire rien. C'est incroyable, il faut le voir pour le croire. Vous entrez par derrière de la maison, les planchers, rien n'est fini. C'est vraiment la pagaille comme j'ai jamais vu auparavant dans une maison. Et voilà, il a 90 ans, il habite toujours tout seul. Et pourquoi finir la maison? Pourquoi la rendre belle? Pourquoi finir les fenêtres et tout? Bon, il est tout seul. Il ne va pas finir ce travail. Mais heureusement, quand Dieu commence un travail en nous, il n'arrête pas. Il ne nous abandonne pas. L'œuvre qui commence, c'est l'œuvre qu'il va terminer. Et quand nous pensons de cette église à Philippe, parce qu'il parle aux Philippiens ici, nous pensons souvent à Paul et à Silas comme fondateurs de l'église à Philippe. Mais Paul dit, non, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas Silas, c'est pas Luc qui était avec nous, c'était Dieu qui a commencé cette bonne œuvre. Vous voyez, c'est ce qu'il dit dans ce verset. Et quand vous pensez au commencement de cette église, vous êtes forcé à donner la gloire à Dieu. Parce qu'ils ont débuté avec une réunion de prière avec quelques femmes au bord du fleuve, et puis une deuxième réunion de prière dans une cellule d'une prison, et c'est tout ce qu'ils avaient là au début. C'est vraiment Dieu qui a commencé cette œuvre en eux. C'est pas Paul qui a commencé ce travail, qui a transformé le cœur de Lydie. La Bible dit en Actes chapitre 16 que c'est Dieu, le Seigneur, qui lui a ouvert le cœur. C'est pas Paul et Silas qui ont changé le cœur du geôlier pour qu'il puisse venir à Dieu par la foi. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui a dû envoyer un tremblement de terre pour changer le cœur de ce geôlier, tant il était insouciant de l'état de son cœur. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a commencé. Mais évidemment, c'est Dieu qui est l'auteur de cette œuvre. Et c'est pourquoi Paul a une telle confiance. Que Dieu va l'achever, qu'il va le finir, parce que c'est Dieu qui l'a commencé. Si l'homme entame quelque chose, si l'homme met en œuvre le salut, il suivrait que l'homme pourrait ainsi le terminer ou l'interrompre. Mais c'est Dieu qui l'a commencé, alors c'est Dieu qui finira ce qu'il a commencé. Et donc je parle ici à ceux qui connaissent le Seigneur, en qui Dieu a déjà fait une bonne œuvre. Je vous donne vraiment des mots de promesse, parce qu'il n'y a qu'une seule explication pour votre salut, c'est la grâce. Et s'il vous a montré la grâce dans le passé, c'est sûr et certain qu'il vous montrera encore la grâce dans le futur. Ainsi, nous voyons que l'auteur de cette œuvre est Dieu. Si c'est l'homme, c'est pas certain. Si c'est l'homme, c'est pas bon. Mais le salut, c'est Dieu. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est Dieu. Et puis considérez deuxièmement la sphère ou l'endroit de cette œuvre. Où est-ce qu'il travaille Dieu? Où est-ce qu'il fait son œuvre? C'est très important. Paul est venu à Philippe, avec Silas, avec Timothée, on croit, avec Luc, certainement. Il n'y avait même pas de synagogue dans cette ville. Où est-ce que Dieu a fait cette œuvre? Regardez le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé, et qu'est-ce qui suit? En vous. Vous voyez? En vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Mes amis, la vraie foi chrétienne, c'est quand Dieu œuvre ou travaille dans une personne, à l'intérieur d'une personne. Le christianisme est donc une question du cœur, pas de l'extérieur. C'est pas le fait d'être confirmé, baptisé, pris la Sainte-Cène, c'est pas des questions de l'extérieur, des actions ou des bâtiments ou des pays ou des pèlerinages. C'est pas des questions qui se voient à l'extérieur avec la main qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on puisse faire. La vraie foi chrétienne, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est quand Dieu travaille en nous. Un chrétien est quelqu'un en qui Dieu a commencé une œuvre. Et donc, si je peux m'adresser aux jeunes, aux enfants et aux plus qu'enfants, pendant juste un moment, vous pouvez vivre dans un foyer chrétien, avoir des parents chrétiens, fréquenter une église chrétienne, Mais si Dieu n'est pas en train de travailler en vous, c'est-à-dire dans le cœur, vous n'êtes pas automatiquement chrétien. Il faut que Dieu travaille en vous. Et chrétien est quelqu'un en qui Dieu a commencé une œuvre. Et donc si je peux m'adresser à tous les autres, vous pouvez être un citoyen modèle, donner même la dîme à l'église, vous pouvez être exemplaire dans votre soin pour les pauvres, pour les faibles, vous pouvez produire une longue liste de tous vos accomplissements au travail, je ne sais pas, dans les ministères de l'église, mais tout cela sera brûlé dans le feu de l'enfer si Dieu n'est pas en train de travailler en vous, s'il n'a pas fait une œuvre en vous, c'est-à-dire dans vos cœurs. Et la Bible indique qu'il est entièrement possible d'avoir une extérieure, d'avoir une forme, c'est le mot que la Bible utilise, de la piété, tout en niant la puissance de Dieu dans le cœur. C'est-à-dire, à l'extérieur, on est chrétien, on est bien, quoi, si on peut le dire comme ça, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui s'est produit. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu dans le cœur. Et ce qui est épouvantable, c'est que c'est une vraie possibilité, même une probabilité, presque une certitude, que même dans cette salle, il y a quelqu'un, ou plusieurs même, ici ce matin, qui sont comme je viens de décrire. Vous avez l'extérieur bien, mais vous n'avez rien à l'intérieur. La bonne œuvre de Dieu est en nous. Et dans le cœur. Il ne suffit pas d'avoir l'apparence. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est d'avoir Dieu au travail, si je peux le dire comme ça, au travail en vous? Sinon, dans les mots de 2 Corinthiens 5, verset 20, en tant qu'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Donc l'endroit est interne et dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on n'est pas là pour commencer des partis politiques, on n'est pas là pour construire des édifices, on n'est pas là pour faire ce que dans l'œil du monde, dans la pensée des êtres humains autour de nous, pourrait démontrer notre grandeur. Vous savez, l'Église, même l'Église de Jésus-Christ a été toujours tentée par ça. Dès qu'ils ont le pouvoir, dès qu'ils ont une certaine richesse, ils sont toujours tentés à construire des édifices ou à faire quelque chose pour démontrer leur grandeur. Comment disent-ils? Est-ce que les gens vont savoir que la foi chrétienne est quelque chose d'important? On va construire ces grosses cathédrales. C'est pour ça que dans tous les villages de la France, il y a des grosses cathédrales. C'était pour impressionner les gens avec la grandeur de l'Église. Mais Dieu n'est pas pour ça. C'est pas que c'est mauvais en soi de construire une cathédrale, je dis pas ça. Mais ce que Dieu cherche, l'œuvre de Dieu, c'est dans les cœurs des hommes et des femmes. C'est là où il travaille. Puis notez, troisièmement, la nature de cette œuvre. La nature de cette œuvre. Et dis-moi, quelle est la nature de cette œuvre? C'est une bonne œuvre. Vous voyez ça? C'est une bonne œuvre. Alors je vous demande, croyez-vous vraiment que l'œuvre de Dieu est en train de faire en vous est bonne? Et là, je parle même aux chrétiens. Croyez-vous que l'œuvre de Dieu qu'il est en train d'accomplir en vous maintenant est bonne? Est-ce que vous vous levez le matin avec ce sentiment que tout va bien parce que Dieu fait une bonne œuvre? Que je peux me réjouir parce que Dieu est en train de faire une bonne œuvre en moi? Que je viens de perdre de l'argent ou des amis, ou j'étais dans un accident, ou il pleut 7 jours sur 7 à Bordeaux, mais c'est pas grave parce que Dieu est en train de faire une bonne œuvre en moi. Est-ce que c'est votre attitude envers cette œuvre? C'est l'attitude de Dieu. Dans sa pensée, ce qu'il fait en vous est une bonne chose. C'est une belle chose. Mais souvent pour nous, on n'a pas cette attitude. Et je crois que vous connaissez le verset en Romains 8, donc vous n'avez pas besoin de chercher, verset 28, mais je vais vous le lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au quoi? Au bien pour ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bon, cela est mis dans le passif, toutes choses concourent au bien, hein, mais nous savons qu'en réalité, il n'y a rien de passif au sujet de la façon dont les choses se déroulent. Un non-chrétien, il dira peut-être, oui, tout ira mieux, il faut être positif, il faut continuer dans la vie. J'ai parlé hier avec une dame musulmane qui est venue de Lyon, c'était sa première journée à Bordeaux, elle venait d'arriver à Bordeaux, elle ne savait même pas où elle allait passer la nuit. Mais quand même, elle m'a dit, j'ai un caractère fort, je peux, ça ira, quoi. Il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais perdre espoir. J'ai dit, espoir en quoi? Mais un chrétien sait que c'est Dieu qui concourt toutes choses ensemble au bien pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Un chrétien sait que c'est Dieu qui fait ces choses. C'est Dieu qui arrange, qui contrôle toutes choses dans ma vie, les petites comme les grandes. La foule en Marc, chapitre 7, verset 37, on dit de Jésus, tout ce qu'il a fait est magnifique. Bon, je crois qu'ils n'ont pas cru ça pendant longtemps, mais ils ont eu raison. Et c'est encore vrai aujourd'hui que tout ce que Dieu fait est magnifique. Tout est beau dans son temps, dit le psalmiste. Et donc ce qu'il fait est bon et il faut accepter, comme dit Jacques chapitre 1, toutes ces choses, même ces épreuves, il faut les considérer comme étant quoi? Une cause de joie même. Parce qu'il est en train de travailler dans nos cœurs. Donc, je ne sais pas vos situations, je sais que c'est différent pour tout le monde, mais je suis sûr et certain que vous avez des difficultés. Je suis sûr et certain que la vie n'est pas en rose pour vous. Je suis sûr et certain qu'il y a des problèmes. Mais si vous connaissez le Seigneur, voici ce que dit le Seigneur. Il est en train de faire une bonne œuvre en vous. Et il utilise toute chose pour accomplir cette bonne œuvre en vous. Donc pour le chrétien, il n'y a rien de gaspillé. Il n'y a pas de temps gaspillé, il n'y a pas d'argent gaspillé, il n'y a rien de gaspillé parce que Dieu sait tout utiliser, tout arranger pour le bien qu'il fait en vous. Que Dieu nous donne la foi pour accepter ce fait. Alors parlons toujours de la nature de ce travail ou de cette œuvre, nous voyons non seulement que c'est une bonne œuvre, mais nous voyons que c'est une œuvre qui sera rendue parfaite. N'est-ce pas? Regardez le verset 6 encore. Paul était persuadé que Dieu qui a commencé en eux cette bonne œuvre de salut allait la rendre quoi? Parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Hein, ce mot que vous voyez dans vos Bibles, rendre parfaite, veut dire d'accomplir ou d'apporter à un but, d'accomplir complètement. C'est un verbe composé de deux mots combinés pour faire un nouveau mot. Et Paul utilise un verbe normal connu à ce temps, teleo, pour accomplir, qui veut dire pour accomplir. Mais il attache à ce verbe un préfixe qui sert à intensifier la signification, c'est-à-dire à entièrement accompli. Il va entièrement accomplir ce qu'il fait. Et donc, ce que nous voyons, c'est un verbe qui souligne le but final, mais aussi les efforts nécessaires afin de réaliser ce but. Je vais essayer de vous expliquer. Si vous avez des devoirs à faire, le soir vous rentrez de l'école ou je ne sais pas où, vous avez des devoirs à faire, vous pouvez dire soit j'ai fini mes devoirs ou soit j'ai travaillé sur mes devoirs. Qui pourrait être la même chose, n'est-ce pas? Le fait de travailler sur les devoirs pourrait être la même chose que de finir le travail. Mais tandis que je peux travailler sur mes devoirs sans les finir, je ne peux pas finir mes devoirs sans y travailler, quoi. N'est-ce pas? Le fait de finir ou de compléter ou de rendre parfaite a cet ingrédient supplémentaire. Rendre parfaite est une œuvre qui ne s'arrête pas jusqu'à ce que l'objectif final soit réalisé. Donc ça ne veut pas simplement dire qu'il est en train d'œuvrer en vous. Oui, il est en train d'œuvrer en vous, de travailler en vous, mais c'est une œuvre qui ne va pas s'arrêter, qui ne va pas relâcher, que Dieu ne va pas relâcher, jusqu'à ce que le but final soit achevé. Il va continuer jusqu'à la fin. Ce n'est pas simplement le fait que Dieu fait quelque chose en vous, il est en train de vous perfectionner, c'est pour ça que j'aime ce mot, perfectionner, vous amener à la perfection. C'est pour ça que ce verbe perfectionner est peut-être la meilleure traduction de ce verbe, car elle dirige l'attention à l'œuvre active et au résultat final, qui est la perfection. Donc, pour le chrétien qui est déjà sauvé, Dieu adore et déjà, il a déjà commencé en vous une œuvre de perfectionnement. Mais la joie et la gratitude dans nos cœurs vient comme nous sommes persuadés de ce fait. Et donc c'est un soulagement pour le chrétien d'y penser que ce que Dieu a commencé, il ne va pas l'abandonner, il va le terminer. Même si vous essayez de jeter la serviette et d'arrêter, Dieu ne va pas arrêter avec vous. Des fois, en tant que chrétien même, on a envie de dire « c'est trop difficile la vie chrétienne, j'en peux plus, je veux simplement me laisser aller dans le monde ». Mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Je parlais hier à quelqu'un qui disait que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Puis elle m'a dit « vous ne me croyez pas, non ?» Et j'ai dit « non, je ne peux même pas vous croire ». J'ai dit, si c'était à moi-même, je n'aurais pas cru que Jésus était le Fils de Dieu. Mais c'est Dieu qui m'a rendu grâce, qui m'a fait grâce. Mais là, je suis forcé à le croire, à cause de l'œuvre en moi. Et la perfection, bien sûr, est une chose future. Mais pourtant, quand on pense à ce verbe perfectionner, ou ce perfectionnement, c'est une activité réelle et actuelle. Quelque chose qui se passe même maintenant, cet instant, dans cette réunion, pendant que vous m'écoutez. Dieu est en train de perfectionner les saints, de les rendre parfaits. Donc j'aime pas trop la phrase « une fois sauvé, toujours sauvé ». Il y a des gens qui me demandent « une fois sauvé, toujours sauvé ». Je préfère cette phrase « une fois sauvé, continuellement perfectionné jusqu'au jour de la perfection ». Une fois sauvé, continuellement perfectionné jusqu'au jour de Jésus-Christ. Le salut n'est pas un état immobile. C'est pas qu'on est sauvé, voilà, on est sauvé. Si on est sauvé, c'est que Dieu travaille activement en nous, qui nous pousse vers la perfection, qui ne nous relâche pas, et qu'il utilise toutes choses, comme on a vu, pour arriver à ce but. Jean dit que la graine, une fois plantée par le Seigneur dans le cœur, préparée, je cite maintenant 1 Jean, la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui, et il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Il ne peut pas, parce que maintenant il a semence de Dieu dans sa vie, et il est né de Dieu, il est un être différent, une nouvelle création. Et donc je crois que la compréhension de la souveraineté de Dieu dans le commencement du salut et dans le perfectionnement du salut, loin de décourager la prière, encourage la prière, nous encourage à prier. Paul avait des prières remplies de joie pour ces personnes parce qu'il savait que Dieu allait terminer ce que Dieu a commencé. Et ça l'a encouragé à prier pour eux. Et quand vous priez pour quelqu'un en qui Dieu travaille déjà, vous pouvez prier aussi avec joie et certitude parce que nous avons ce que nous demandons, comme dit la Bible, parce que nous pouvons être persuadés que cette même chose que Dieu a commencé en eux, sa bonne œuvre, sera poursuivie jusqu'à la fin, jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Et donc ça nous amène à cette quatrième considération, et ça c'est la durée. De ce travail, de cette œuvre. Paul était persuadé que celui qui a commencé en eux cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pour le jour de Jésus-Christ. Ce jour splendide de la perfection, de l'accomplissement de cette œuvre sera le jour de Jésus-Christ. Il appelle le jour de Christ dans le verset 10 plus tard. Et dans le chapitre 2, verset 16, il en parle encore. Et ça se rapporte au moment où les croyants seront glorifiés. Ils seront glorifiés. Ça rapporte au moment, vous pouvez le lire, c'est à la fin de chapitre 3, je crois, où il dit cela, le verset 21, que Dieu transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il prendra le corps de notre humiliation et le rendra semblable à son propre corps de gloire. Ça, c'est le jour de Christ. Ça, c'est le jour que nous attendons. Et vous savez, il y a presque 2000 ans depuis que Paul a écrit ces paroles avec tant de confiance. Et le jour dont il parlait, le jour du Seigneur, n'est toujours pas arrivé. On attend toujours. Mais croyez-moi, je suis aussi confiant que Paul que le corps de Lydie sera ressuscité. Le geôlier et sa famille seront ressuscités. Ils seront rendus parfaits au jour du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, la Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, ensuite nous les vivants qui sont restés, si nous sommes toujours vivants, quand il revient, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 17 et 18. Paul se réjouissait quand il pensait à ses croyants à cause de leur communion mutuelle dans l'évangile depuis le premier jour jusqu'à l'heure où il a écrit cette lettre. Mais il pouvait aussi se réjouir dans le perfectionnement futur de leur foi en raison du caractère de Dieu et de la durée de l'œuvre de Dieu en eux, qu'il n'allait pas arrêter jusqu'à ce jour. Alors, est-ce qu'on comprend la continuité de notre salut? C'est-à-dire le raccordement inséparable entre le commencement de notre salut et la fin de notre salut. On ne peut pas le diviser. Si nous avons le début, c'est que nous avons tout le paquet. Il vient tous ensemble. Comme un homme l'a mis, Dieu, je cite, « Dieu n'est pas comme les hommes expérimentent, hein, ils font des essais, mais Dieu effectue un plan. Dieu ne fait rien en moitié. » Tout ce qu'il fait est bon, même le travail dans le cœur d'un pécheur. Le salut est un entier inséparable, depuis le commencement à la perfection, et c'est Dieu qui prend la responsabilité pour le tout, comme le commencement, comme la fin. Quand Dieu sauve, donc il sauve éternellement, il sauve complètement. Son travail ne peut jamais être avorté, arrêté, parce que quand il a débuté une chose, il va certainement l'achever. Nous trouvons qu'ils sont appelés saints dans le verset 1. Vous voyez ça dans chapitre 1, verset 1, ces gens sont appelés saints. Et puis dans le verset 6, nous avons cette grande doctrine qu'on appelle des fois la persévérance des saints. Peut-être un meilleur terme ou une meilleure phrase. Certainement une phrase biblique serait « la perfectionnement des saints ». Ils seront perfectionnés. Les croyants sont prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, 29 nous dit. Les croyants, Romains 8, 29 nous dit que ils sont prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous savons, 1 Jean 3, 2, que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons. C'est prédestiné, c'est sûr et certain. Quelques-uns parmi vous connaissent Doris, qui habitait avant à Bordeaux, enfin à Sèges, même à côté. Et un jour j'ai vu un badge qu'elle avait, qui avait plein de lettres. Je crois que c'était S, P, S, V, P, D, N, E, P, E, F, A, M. Bon, c'était fait exprès pour que les gens demandent ce que c'est. L'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces lettres? Elle a dit, ça veut dire ça. Soyez patient, s'il vous plaît, Dieu n'est pas encore fini avec moi. Il travaille toujours. Donc, soyez patient. Et c'est ce qu'il faut faire avec les uns les autres, n'est-ce pas? Il faut souvent supporter les uns les autres, parce que Dieu est toujours en train de faire cette œuvre en nous. Le salut n'est pas une expérience qui se produit pendant un certain temps et puis qui s'arrête. C'est Dieu qui produit un but précis, Et si vous appartenez à lui aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de craindre, il va continuer cette œuvre en vous. Il va perfectionner ce qu'il a commencé. Et vous pouvez être assuré qu'un jour vous serez avec Christ pour être comme lui. Imaginez ça, pour être comme Jésus-Christ. Parce que vous le verrez comme il est. Ah donc, pour le chrétien, c'est inutile à résister à ce travail. C'est inutile. Tout ce que ça produit sont des troubles et des malheurs pour vous et ceux qui sont autour de vous. Pensez à Jonas. Est-ce qu'il a pu réussir? Non, il n'a rien réussi, mais il a créé beaucoup de troubles pour lui-même, n'est-ce pas? Donc pourquoi faire comme lui et résister à cette œuvre? Pourquoi pas céder tout de suite à Dieu, à cette bonne œuvre qu'il est en train de faire en vous? Et notez cinquièmement ce que nous avons déjà mentionné, nous avons un peu commencé avec ça, mais c'est la confiance. La confiance de Paul dans cette œuvre. Qu'est-ce qu'il dit au début du verset 6? Je suis persuadé, ou étant persuadé. Je suis plein de joie et de reconnaissance, étant persuadé. Cela veut dire d'être convaincu, persuadé de quelque chose, d'être sûr, sûr et certain. Et la forme du verbe indique que Paul est venu à cette conviction bien plus tôt. Il avait été persuadé, et il était toujours aussi persuadé quand il écrivait cette lettre. Et c'était cette confiance qui a donné à Paul tant de gratitude et de joie quand il a prié pour les Philippiens. Parce que personne ne veut jouer sur l'équipe des perdants. Alors voici l'équipe perdante, qui veut jouer avec moi, je vais perdre. Personne ne veut faire ça. Personne ne veut prier, veut dépenser d'énergie, de travail, d'argent, même des prières, pour une œuvre qui ne va pas réussir. C'est normal. Mais imaginez si vous étiez sur le point de commencer une entreprise nouvelle. Je crois qu'il y a, j'ai entendu, il y a 3000 entreprises nouvelles qui sont commencées en France chaque année, et que je crois que ces 3 parmi les 4 ne réussissent pas. Mais imaginez que vous êtes prêt de commencer une nouvelle entreprise en France et que vous savez qu'il n'y a aucun risque, que vous allez sans doute avoir un succès accablant. Imaginez la joie que vous aurez, l'énergie pour commencer cette entreprise parce que vous savez que vous ne pouvez pas perdre, quoi. Et imaginez qu'il y avait un ministère dans lequel vous allez vous donner à fond, quoi, mettre toute votre énergie, vos prières, et que vous étiez sûr et certain, même avant d'entreprendre ce ministère, que ce n'était pas en vain, qu'il allait avoir un but précis, et que cette œuvre dans laquelle vous êtes prêt à vous engager allait arriver à ce but précis, sûr et certain. J'imagine que ça vous donnerait de la joie et de la force pour l'entreprendre. Et Paul avait une telle confiance, il était persuadé, il était convaincu que c'était une œuvre de Dieu, pas d'homme, et puisque c'était une œuvre divine, que ça allait être une œuvre achevée et perfectionnée. Ça change même nos émotions, parce qu'il est, comme vous le voyez au début, il est plein de joie, vous voyez ? Il est plein de joie, il est plein de gratitude, plus de rangement intérieur, plus d'inquiétude. Non, il prend sa place avec joie, même s'il se trouve en prison. Parce qu'il sait que même la cellule de prison ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu que Dieu fait dans les personnes autour de lui. Notez la confiance de Paul. Sa certitude n'est pas dans ses propres capacités, c'est pas dans ses travaux laborieux, c'est pas dans un commencement auspicieux de cette église. Il ne dit pas que, ah oui, ça s'est bien commencé et j'ai pu tellement bien prêcher que je suis sûr et certain qu'il y aura du fruit. Non, c'est pas ça du tout. Nous allons vite chercher des signes comme ça afin de baser notre confiance, notre assurance dans le succès de nos prières et de nos travaux, dans des signes de ce type. Oh, ils avaient l'air gentils, ou ils ont bien apprécié, ou on cherche toujours à voir comment les gens réagissent, les choses externes, quoi. Mais pas Paul. Paul était persuadé que celui, il pensait à Dieu à chaque fois, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Sa confiance était en Dieu. Il connaissait l'auteur de l'œuvre, il connaissait la sphère ou l'endroit de l'œuvre, il connaissait la nature de cette œuvre qui était bonne, il connaissait la durée de cette œuvre, et ça, sur toutes ces choses, il pouvait dire « Je suis persuadé ». Et ainsi, l'état d'esprit de Paul dans la prière, comme vous voyez dans les versets 3 et 4, était avec gratitude et avec joie à cause de cette certitude. Bon, je termine en vous demandant, est-ce que vous avez connu cette œuvre en vous? Est-ce que vous voulez la connaître? Vous pouvez la connaître. Dieu peut commencer en vous cette bonne œuvre. Et aux chrétiens, je vous demande, est-ce que vous avez la confiance en Dieu que toute chose concourt au bien afin que cette œuvre en vous s'accomplisse? Ce qui est important, mes amis, dans la vie, c'est pas que vous réussissez vos études, au travail, en premier lieu, c'est pas ça. Ce qui est important dans la vie avant toute chose, c'est cette œuvre que Dieu fait en vous, et c'est garanti qu'il va le faire. Donc nous pouvons avoir la joie à cause de ça. Prions ensemble. Seigneur, tu connais la faiblesse et les faillites de ton serviteur, mais tu connais la force de ta parole et de ton esprit. Donc nous te demandons, par ton esprit, d'utiliser ta parole dans nos cœurs pour nous amener vers la perfection, pour continuer ce travail de sanctification en nous, de nous transformer petit à petit dans l'image de Jésus-Christ. Et nous te remercions que rien ne se passe par hasard, que le monde autour de nous est guidé par ta main à un but précis, que tu contrôles toutes choses, que même la politique autour de nous, les nations qui se lèvent, c'est par ta volonté. Tu vois la fin du monde, tu sais qu'on sait, tu as toutes choses en ordre sur ton contrôle. Et même nos vies, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous par la foi à nous réjouir dans l'œuvre que tu fais en nous. Et change-nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen.